2010. Les parents de Pete Saubers se disputaient beaucoup maintenant. Tina appelait ces disputes les Waffy Waffy. Pete trouvait que sa petite sœur avait de l'idée. Parce que ça donnait exactement ça quand il s'y mettait. Waff waff, waff waff waff. Des fois, Pete avait envie de s'avancer sur le palier en haut de l'escalier et de leur hurler d'arrêter, bon sang, d'arrêter. Vous faites peur aux enfants! Il avait envie de gueuler. « Il y a des enfants dans cette maison, des enfants. Vous l'avez oublié, bande de patates ?» Pete était à la maison, car les élèves inscrits au tableau d'honneur, ayant seulement études l'après-midi et activités optionnelles après déjeuner, avaient le droit de rentrer chez eux plus tôt. La porte de sa chambre était ouverte, et il entendit son père béquiller rapidement à travers la cuisine, à la seconde où sa mère se garait dans l'allée. Pete était quasi certain que les festivités du jour commenceraient avec son père disant que, ben dis donc, elle rentrait de bonne heure. Sa mère répondrait qu'il se rappellerait donc jamais que maintenant c'était le mercredi qu'elle finissait plus tôt. Alors papa répliquerait qu'il s'était toujours pas habitué à vivre dans cette partie de la ville, disant ça comme si on les avait forcés à déménager dans les bas-fonds les plus obscurs de Lowtown, plutôt que dans le quartier des rues au nom d'arbre de Northfield. Une fois sacrifié aux préliminaires, il pourrait passer aux choses sérieuses, à la vraie prise de bec. Pete non plus ne raffolait pas du Northside. Mais c'était pas si terrible que ça. Et même à 13 ans, il semblait comprendre les réalités économiques de leur situation mieux que son père. Peut-être parce que, à la différence de son père, il n'avalait pas des cachets d'oxycontin 4 fois par jour. Ils étaient ici parce que le collège Grace Johnson, où enseignait sa mère avant, avait été fermé dans le cadre du plan de coupe budgétaire décidé par le conseil municipal. Un bon nombre d'enseignants de GJ étaient maintenant sans emploi. Linda, au moins, avait été embauchée comme bibliothécaire et surveillante d'études à l'école primaire de Northfield. Elle terminait plus tôt le mercredi parce que la bibliothèque fermait à midi, comme toutes les autres bibliothèques scolaires. Coupe budgétaire oblige. Ça faisait enrager le père de Pete, qui manquait pas de faire remarquer que les conseillers municipaux, eux, avaient pas baissé leur salaire et les traitaient de foutues bandes d'hypocrites du Tea Party. Ça, Pete n'en savait rien. Ce qu'il savait, c'était que ces temps-ci, Tom Saubers enrageait à propos de tout. La Ford Focus, leur seule voiture à présent, s'arrêta dans l'allée et maman en descendit, traînant derrière elle son vieux cartable usé. Elle contourna la plaque de givre qui se formait toujours dans le coin d'ombre sous la descente de gouttière du Porsche. C'était au tour de Tina d'y mettre du sel, mais elle avait oublié, comme d'habitude. Maman monta les marches lentement, les épaules basses. Pete détestait la voir marcher comme ça. C'était comme si elle avait un sac de briques sur le dos. Pendant ce temps, les béquilles de papa battaient un rythme à 2 temps dans le salon. La porte d'entrée s'ouvrit. Pete attendit, espérant quelque chose de gentil, genre « Coucou chérie, c'était comment ta matinée ?»« Tu parles. » Il n'avait pas exactement envie d'écouter leur Waffy Waffy, mais la maison était petite, et c'était pratiquement impossible de faire autrement. Si, il pouvait toujours sortir. Une stratégie de repli qu'il avait adoptée de plus en plus fréquemment cet hiver. Mais en tant qu'aîné, il avait parfois le sentiment que c'était son devoir écouter. Monsieur Jacobi, son professeur d'histoire, aimait dire que savoir, c'est pouvoir, et Pete supposait que c'était pour ça qu'il se sentait obligé de surveiller l'escalade dans la guerre des mots que se livraient ses parents. Parce que chaque prise de bec effilochait un peu plus l'étoffe de leur couple, et un de ces jours, celle-ci finirait par craquer. Mieux valait se préparer. Mais se préparer à quoi ? Au divorce ? Ça semblait être l'issue la plus probable. D'un côté, les choses s'arrangeraient peut-être s'ils se séparaient. Pete le ressentait de plus en plus fort, même si son esprit ne l'avait pas encore formulé de façon consciente. Mais ça signifierait quoi exactement un divorce dans la vraie vie ? Une autre des expressions favorites de M. Jacobi. Qui resterait et qui partirait ? Si c'était son père qui partait, comment se débrouillerait-il sans voiture alors qu'il pouvait à peine marcher ? D'ailleurs, comment l'un ou l'autre pourrait-il avoir les moyens de partir ? Ils étaient déjà fauchés. Au moins, Tina n'était pas là pour l'échange animé de vues parentales du jour. Elle était encore à l'école et ne rentrerait probablement pas avant le dîner. Elle avait fini par se faire une copine, une fille aux dents de cheval qui s'appelait Helen Briggs et qui habitait au croisement de Sycamore et Elm. Pete trouvait que Helen avait le QI d'un hamster, mais au moins, Tina n'était pas constamment en train de se morfondre à la maison, nostalgique de ses copines de leur ancien quartier, et aussi parfois en train de pleurer. Pete détestait quand Tina pleurait. En attendant, éteignez vos portables et vos beepers, les amis. Les lumières baissent et l'épisode de cet après-midi de « On est dans la merde jusqu'au cou » va commencer. Tom. Dis donc, tu rentres de bonne heure, Linda, avec lassitude. Tom, on est... Tom. Mercredi, je sais, la bibliothèque ferme plus tôt. Linda. T'as encore fumé dans la maison, ça sent la cigarette. Tom, commençant à prendre la mouche. Une seule, dans la cuisine, avec la fenêtre ouverte. Il y a du verglas sur les marches de derrière. Je voulais pas risquer la chute. Pete a encore oublié de mettre du sel. Pete, en aparté.
Comme il est censé le savoir, puisque c'est lui qui a fait le tableau des corvées, cette semaine, c'est au tour de Tina de saler. Les pilules d'oxycontine qu'il prend sont pas justes contre la douleur. Elles rendent aussi débile.
Linda.
Ça sent quand même. Et tu sais qu'il est précisément spécifié dans le bail qu'il est interdit.
Tom. Ça va, ok, j'ai compris. La prochaine fois, j'irai dehors au risque de tomber de mes béquilles. Linda.
C'est pas seulement à cause du bail, Tommy. Le tabagisme passif est mauvais pour les enfants. On en a déjà parlé.
Tom. Et reparler. Linda. S'enfonçant en eau toujours plus profonde.
Et puis, ça coûte combien un paquet de cigarettes maintenant? 4,50? 5?
Tom.
Pour l'amour du ciel! Je fume un paquet par semaine!
Linda, enfonçant les défenses de Tom d'un assaut de panzer arithmétique.
À $5 le paquet, ça fait $20 par mois. Et tout ça pris sur mon salaire puisque c'est le seul.
Tom.
Et allez, c'est reparti!
Linda.
Qu'on a maintenant?
Tom.
T'aimes remuer le couteau dans la plaie, toi, hein? Tu crois peut-être que je me suis fait rouler dessus exprès pour que je puisse rester à la maison à me tourner les pouces?
Linda, après un long silence.
Il reste du vin? J'aurais bien besoin d'un demi-verre, là.
Pete, en aparté.
Dis oui, papa, dis oui.
Tom.
Non, fini. Mais tu veux peut-être que je me traîne en béquille jusqu'aux Oneys pour en racheter?
Évidemment, tu devras m'accorder une avance sur mon argent de poche. Linda, au bord des larmes.
Tu te comportes comme si ce qui t'était arrivé était de ma faute.
Tom, criant.
C'est la faute à personne, et c'est bien ça qui me rend dingue. Tu comprends pas ça? Ils ont même pas réussi à choper le type qui l'a fait.
À ce stade, Pete décida qu'il en avait assez. C'était une pièce débile. Ses parents s'en rendaient peut-être pas compte, mais lui, oui. Il referma son manuel de littérature. Il lirait le texte demandé, un truc d'un certain John Rothstein, ce soir.
Pour le moment, il fallait qu'il sorte et qu'il respire un peu d'air frais.
Linda, doucement.
« Au moins, t'es pas mort. »
Tom, virant totalement dans le mélo.
« Des fois, je me dis que ça aurait mieux valu. Regarde-moi, accro à l'oxy, et souffrant quand même le martyr, parce que cette merde me fait plus rien, sauf si j'en prends assez pour me plonger dans le coma. À vivre sur le salaire de ma femme, amputé de $1,000 grâce à ces putains d'hypocrites du Tea Party. »
Linda.
Surveille ton langue.
Tom.
Notre maison? Fini. Le fauteuil roulant électrique? Fini. Nos économies? Quasi fini. Et maintenant, je peux même pas fumer une putain de clope.
Linda.
Si tu crois que ça va arranger les choses de pleurnicher, je t'en prie, continue, mais...
Tom, hurlant.
T'appelles ça pleurnicher? J'appelle ça être réaliste! Tu veux que j'enlève mon pantalon pour que tu puisses bien voir ce qui reste de mes jambes?
Pete flottant aux chaussettes jusqu'en bas des marches. Le salon était juste là, au pied de l'escalier, mais ils le virent même pas. Ils étaient face à face, trop occupés à jouer une pièce de théâtre complètement à chier, pour laquelle personne n'achèterait jamais de billets. Son père dressé comme un coq sur ses béquilles, les yeux rouges et les joues broussailleuses de barbe, sa mère tenant son sac à main devant ses seins comme un bouclier et se mordant les lèvres. C'était horrible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il les aimait. Son père avait oublié de mentionner le fonds d'urgence, mis en place un mois après le massacre du City Center par le dernier journal papier de la ville, en collaboration avec trois chaînes de télé locales. Brian Williams y avait même consacré un reportage dans NBC Nightly News. Comment cette petite ville courageuse s'était serré les coudes quand la catastrophe avait frappé. Toutes ces âmes charitables, toutes ces mains tendues et tous ces blablabla, et maintenant, une courte page de pub. Le fonds d'urgence avait donné bonne conscience aux gens pendant genre 6 jours. Ce que les médias avaient omis de dire, c'était que le fonds d'urgence avait récolté bien peu, même avec les marches de bienfaisance, les courses à vélo de bienfaisance et un concert du chanteur arrivé deuxième à American Idol. Le fonds d'urgence était maigre, parce que les temps étaient durs pour tout le monde. Et bien sûr, l'argent collecté avait dû être partagé. La famille Saubers avait reçu un chèque de 1 200 $, puis un de 500, puis un de 200. Le chèque du mois dernier, marqué « Dernier versement », s'élevait à 50 $. Waouh ! Pete se faufila dans la cuisine, attrapa ses bottes et son manteau et sortit. La première chose qu'il remarqua, c'était qu'il n'y avait pas du tout de verglas sur le perron de derrière. Son père avait carrément menti. Il faisait trop doux pour que ça gèle, du moins au soleil. Le printemps ne serait pas là avant 6 semaines, mais le dégel avait commencé depuis déjà presque une semaine et il ne restait plus que quelques carrés de neige durcis sous les arbres dans le jardin de derrière. Pete le traversa jusqu'à la clôture et se glissa de l'autre côté du portail. S'il y avait un avantage à vivre dans les rues au nom d'arbres du Northside, c'était la friche qui s'étendait derrière Sycamore. Elle était facilement aussi grande qu'un pâté de maison. 2 hectares broussailleux de sous-bois et d'arbres rabougris descendant en pente vers un ruisseau gelé. Le père de Pete disait que le terrain était abandonné depuis longtemps et qu'il y avait fort à parier qu'il le reste encore longtemps à cause d'une interminable querelle juridique à propos de qui en était le propriétaire et de ce qu'on pouvait y construire. En fin de compte, les seuls gagnants dans ce genre de conflit, ce sont les avocats, avait-il dit à Pete. Souviens-toi bien de ça. De l'avis de Pete, les enfants qui voulaient se refaire une petite santé mentale loin de leurs parents étaient aussi gagnants. Un chemin sinueux coupait en diagonale à travers les arbres dépouillés par l'hiver et débouchait sur le centre aéré de Birch Street, ce bon vieux foyer des jeunes de Northfield dont les jours étaient à présent comptés. À la belle saison, des grands traînaient sur ce sentier et autour. Ils fumaient des cigarettes et de l'herbe, buvaient des bières et couchaient probablement avec leurs copines. Mais pas à cette période de l'année. Pas de grand, ça voulait dire pas d'emmerdement. Parfois, si ses parents se prenaient sérieusement le bec, c'est-à-dire de plus en plus souvent, Pete emmenait sa sœur avec lui. Quand ils arrivaient au centre aéré, ils tiraient quelques paniers, regardaient des vidéos ou jouaient aux dames. Ils ne voyaient pas où ils pourraient l'emmener une fois que le centre aéré serait fermé. Il n'y avait aucun endroit où aller, à part aux O'Neills, la supérette du quartier. Quand il était seul, il n'allait généralement pas plus loin que le ruisseau où il jetait des cailloux dans l'eau, si elle coulait, ou faisait des ricochets sur la glace, si elle était gelée, pour voir s'il pouvait faire des trous dedans, en profitant du calme. Les prises de bec étaient suffisamment inquiétantes comme ça. Mais sa plus grande crainte, c'était que son père, toujours un peu shooté à l'oxy maintenant, lève carrément la main sur sa mère. Ça ferait presque à coup sûr craquer l'étoffe déjà bien effilochée de leur couple. Et dans le cas contraire, si maman encaissait les coups sans broncher, ça serait encore pire. Ça arrivera jamais, se disait Pete. Papa ferait jamais ça. Oui, mais s'il le faisait. Le ruisseau était toujours couvert de glace cet après-midi, mais elle avait l'air pourrie, et il y avait de grosses taches jaunes dedans, comme si un géant s'était arrêté pour pisser. Pete n'allait pas se risquer à marcher dessus. Il ne se noierait pas ni rien si la glace craquait. L'eau n'arrivait pas plus haut que la cheville. Mais il n'avait aucune envie de rentrer à la maison et d'avoir à expliquer pourquoi son pantalon et ses chaussettes étaient mouillés. Il s'assit sur un tronc d'arbre couché et lança quelques cailloux. Les plus petits ricochaient et roulaient, les plus gros passaient à travers les taches jaunes, puis regarda simplement le ciel un moment. De gros nuages cotonneux flottaient là-haut, plus du genre nuages de printemps que d'hiver, bougeant d'ouest en est. Il y en avait un qui ressemblait à une vieille femme avec une bosse dans le dos, ou peut-être un sac à dos. Il y avait un lapin, un dragon. Il y en avait un qui ressemblait à... Sur sa gauche, un léger bruit d'éboulement détourna son attention. Il se retourna et vit qu'une partie de la berge en saillie, fragilisée par une semaine de fonte des neiges, avait cédé, exposant les racines d'un arbre qui penchait déjà dangereusement. L'espace dégagé par l'éboulement ressemblait à une grotte, et, sauf méprise, ça pouvait être juste une ombre, il y avait quelque chose dans le fond. Pete marcha jusqu'à l'arbre, attrapa l'une de ses branches nues et se pencha pour regarder de plus près. Il y avait bien quelque chose là-dedans, et ça avait l'air plutôt grand. Le côté d'une caisse, peut-être? Il négocia la pente de la berge, façonnant des marches de fortune en creusant la terre boueuse du talon de ses chaussures. Arrivé en dessous du petit glissement de terrain, il s'accroupit. Il aperçut du cuir noir craquelé et des garnitures en métal riveté. Il y avait aussi une poignée de la taille d'un étrier sur le côté. C'était une malle. Quelqu'un avait enterré une malle ici. Aussi excité que curieux à présent, Pete attrapa la poignée et tira. La malle ne bougea pas d'un pouce. Elle était bien calée là-dedans. Pete tira une deuxième fois, mais juste pour la forme. Il n'arriverait pas à la sortir, pas sans outils. Il resta accroupi, laissant ses mains pendre entre ses cuisses, comme son père le faisait avant que c'en soit fini pour lui de s'accroupir, fixant du regard la malle qui pointait hors de la terre noire enchevêtrée de racines. C'était probablement fou de penser à l'île au trésor, et aussi au scarabée d'or, une nouvelle qu'ils avaient lue en cours d'anglais l'année d'avant, mais il y pensait. Et était-ce vraiment fou? Était-ce vraiment si fou que ça? En plus de leur répéter que savoir, c'est pouvoir, M. Jacobi soulignait toujours l'importance de la pensée logique. Et n'était-ce pas logique de penser que personne n'irait enterrer une malle dans les bois si elle ne contenait pas quelque chose de précieux? Ça faisait longtemps qu'elle était là, en plus. Ça se voyait rien qu'à la regarder. Le cuir était craquelé et gris par endroits au lieu de noir. Pete avait dans l'idée que s'il tirait de toutes ses forces sur la poignée et continuait de tirer, elle risquait de casser. Les garnitures en métal étaient ternes et piquetées de rouille. Il parvint à une décision et se dépêcha de remonter le chemin jusqu'à la maison. Il repassa le portail, alla à la porte de la cuisine et tendit l'oreille. Aucune voix, et la télé était éteinte. Son père était probablement parti faire la sieste dans la chambre, celle du rez-de-chaussée, où papa et maman devaient dormir maintenant, même si elle était petite, parce que papa pouvait plus trop monter les marches. Maman était peut-être allée avec lui. Ils se réconciliaient parfois comme ça. Mais il y avait plus de chances qu'elle soit dans la buanderie, qui lui servait aussi de bureau, à travailler sur son CV et à postuler pour des offres d'emploi en ligne. Son père avait peut-être baissé les bras, et Pete devait admettre qu'il avait ses raisons, mais sa mère non. Elle voulait retourner à l'enseignement à plein temps, et pas seulement pour l'argent. Ils avaient un petit garage séparé de la maison, mais sa mère n'y garait jamais la Focus à moins qu'une tempête de neige soit annoncée. Il était plein de bazar de leur ancienne maison qu'ils ne pouvaient pas caser dans cette maison de location plus petite. Il y avait la caisse à outils de son père. Tom avait mis les outils en vente sur Craigslist ou quelque chose du genre, mais il n'avait pas pu obtenir ce qu'il estimait être un prix correct pour le lot. Quelques-uns de leurs vieux jouets, la caisse de sel et la pelle, et du matériel de jardinage appuyé contre le mur du fond. Pete choisit une pelle et repartit vers le chemin en courant, la tenant devant lui comme un soldat son fusil. Utilisant les marches qu'il avait façonnées dans la terre, il redescendit presque jusqu'au niveau de l'eau et s'attaqua au petit glissement de terrain qui avait révélé la malle. À l'aide de la pelle, il remit autant de terre qu'il put dans la cavité sous l'arbre. Il ne parvint pas à couvrir complètement les racines, qui restèrent apparentes, mais il réussit à recouvrir l'extrémité de la malle. Et c'était tout ce qu'il voulait. Pour le moment.